19h31, la suite de votre grand journal du soir, François Claus.
L'heure de notre page culture et cet homme que nous allons recevoir, nous avons bu des bières au Louxor avec lui, il nous a plongé dans le grand bain, il nous a fait même aimer une improbable équipe de football en noir et rouge. Vous l'avez sûrement reconnu, monsieur Philippe Catherine, bonjour.
Bonjour, à votre service.
On est heureux de vous recevoir sur Europe 1 ce soir.
Merci.
Vous êtes à l'affiche d'un film que j'ai trouvé merveilleux, qui m'a fait rire, qui parle de mon époque aussi, qui s'appelle Yves, signé Benoît Forgeard.
Oui.
Si vous devez parler de Yves, vous dites c'est qui Yves ?
Bien, Yves, contrairement aux apparences, c'est un prénom utilisé pour les hommes. On en a connu des Yves, Yves Saint-Laurent, Yves Montrouzy. Yves Montand, effectivement. Et là, ce prénom est attribué à un frigo. Intelligent.
Et qui va devenir de plus en plus intelligent.
Qui va quand même, progresser dans ses facultés, avec les risques que ça encourt, hein, bien sûr.
Alors on va revenir évidemment sur ce film que je vous conseille d'ores et déjà d'aller voir, et Mathieu Charrier, monsieur cinéma, de reprendre la vue, puisque le film était en clôture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il est signé Benoît Forgeard, à qui on doit notamment Gaz de France, comédie déjà remarquée. Et vous l'avez compris, c'est un film décalé, c'est un film délicieux. Aussi, je suis heureux, Philippe Catherine, de vous présenter la bande culture d'Europe 1 qui est dans ce studio. Madame Diane Chénouda, bonjour.
Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Elle nous fait visiter les expositions. Et vous d'ailleurs, le dessin, c'est aussi une de vos passions.
Oui, oui.
Comment vous faites pour tout faire, du film, de la chanson, du dessin ?
Bon, je ne peux pas tout faire en même temps. Je ne sais faire qu'une chose en même temps, comme sont la plupart des hommes. Mais j'adore dessiner depuis que je suis tout petit. Je ne me suis jamais arrêté, vraiment.
Et on va pouvoir voir vos dessins bientôt.
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai fait quelques livres et puis un spectacle aussi où j'utilise mes dessins qui s'appelle « Ce que je sais de la mort et de l'amour ».
Eh bien, on vous demandera ce que vous en savez parce qu'on se pose beaucoup de questions, nous aussi, ici.
Je peux vous répondre.
À vos côtés, Vanessa Zah qui nous fait voyager, qui nous emmènera dans une région qui vous est chère tout à l'heure. Bonjour Vanessa.
Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Et puis en face de vous, monsieur cinéma, Mathieu Charrier.
Bonjour, bonjour.
Vous avez vu Yves à Cannes.
J'ai vu Yves. Alors vous en avez dit trop peu sur Yves quand même. Parce qu'effectivement, c'est un frigo intelligent, mais qui va nouer une relation avec William Lebguil au départ, qui est une sorte de rappeur raté. Vous êtes son agent, vous. Et c'est cet échange entre les deux hommes qui va être intéressant. D'ailleurs, je dis entre les deux hommes, c'est un lapsus, mais parce que le frigo prend tellement la place d'un humain avec une espèce de pseudo-intelligence artificielle.
Il devient le personnage du film.
Exactement,
personnage.
Il devient le personnage principal.
Il va jusqu'à faire l'amour même.
Oui, c'est pas encore le cas, hein, mais c'est un robot qui ressent des sentiments. Alors pour l'instant, on est épargné par ça, hein, mais ça nous pend au nez.
Et
on devra bientôt se paxer avec des robots, des ordinateurs. On aura peut-être des enfants avec eux.
J'ai lu une phrase du réalisateur là, qui reprend l'histoire, qui dit « Attention, les robots, il ne faut pas qu'ils deviennent très intelligents, trop intelligents, parce que sinon, ils ne vont plus rien foutre.
»
qui résume assez bien l'esprit du film. Ce film nous emmène, évidemment, on l'a compris, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de notre monde d'aujourd'hui. Il y a une bande-son, d'ailleurs, formidable, puisque le personnage est un rappeur. Je vous propose, allez, ça s'appelle « Crabe ». Carrément, rien à branler. Alors le rappeur William Lebguil, là, il rame un peu à écrire ses textes, là, et puis tout d'un coup le frigo lui donne un coup de main.
Oui, c'est-à-dire que là ce qu'on entend c'est la version remixée, remixée par le frigo, hein, qui a un avis sur ce que fait son poulain. Il remixe le morceau qui finit par marcher très fort.
Oui, parce qu'il a un avis, mais il a surtout en lui tellement de données, on imagine, de techniques, que lui reprend la chanson, il met tout ce qu'il faut dedans pour que ça marche, en fait. Parce que comme il a cette intelligence suprême, bah, il peut dire que ça va marcher si tu le transformes comme ça. C'est ça qui fait peur dans
le film. Voilà, à force de calcul, il arrive à un hit. C'est affreux, mais enfin, ça existe déjà.
On ne va pas vous en révéler, mais il y a une scène exceptionnelle de concours de l'Eurovision où les chanteurs sont remplacés par des robots intelligents. J'en dis pas plus parce qu'il faut évidemment aller voir le film. Vous l'avez compris, nous sommes avec Philippe Catherine pour parler de Yves qui sort mercredi. Mercredi, il y a également à l'affiche un autre film. On aurait pu d'ailleurs y voir Philippe Catherine dans le rôle. Vous allez, Mathieu Charrier, nous faire découvrir cette semaine Le Dain.
Oui, Le Dain, sorti mercredi dernier. Alors, Philippe Catherine, j'imagine que vous connaissez, que vous aimez l'univers de Quentin Dupieux. Vous
avez passionnément.
Pas encore tourné avec lui, je crois.
Non.
Ce serait une envie.
Ah bah bien sûr. Je veux dire, si il me fait un clin d'œil, je réponds bouche bée.
Parce que c'est vrai que Philippe Catherine dans l'univers de Quentin Dupieux, on aimerait bien voir ça. Alors là, Le Dain. Je vous résume l'histoire pour nos auditeurs. Jean Dujardin joue Georges, 44 ans. On comprend au début du film qu'il vient de tout plaquer, le volant de sa petite voiture, direction le domicile d'un homme à qui il achète un manteau en daim, tout simplement, avec des petites franges. Il paie assez cher, hein, le manteau, faut bien le dire, plusieurs milliers d'euros, cash avec ses économies, et il repart s'installer dans une chambre d'hôtel. Sauf que, bah, petit à petit, ce manteau, sans trop vous en dire, va devenir comme une seconde peau pour lui, va presque lui donner des super pouvoirs, ou en tout cas, il va le désinhiber, et puis va prendre possession de Georges, c'est-à-dire que Georges n'a alors plus qu'une idée en tête, supprimer de la surface de la Terre tous les autres blousons, en tuant évidemment au passage leur propriétaire, Georges qui est donc campé par Jean Dujardin.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de se barrer, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en daim et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Voilà, une régression filmée aussi, puisqu'en parallèle, Georges filme ses actes, aidé par une complice formidable qui est jouée par Adèle Haenel. Et donc voilà, tout ça nous donne une espèce de film un petit peu bizarroïde.
Et qui se rapproche de l'univers un peu d'aujourd'hui, mais tellement délirant du film Yves qu'on évoquait à l'instant.
Oui, c'est ces films qui nous interrogent quand même sur une époque, même si...
Absolument, il y a ce créneau aujourd'hui de ce type de comédie qui se développe. Hein. On pense au film de Salvadori, En Liberté aussi, au film de Noémie Lvovsky. C'est clairement une nouvelle tendance dans le cinéma. Et donc, il faut aller voir ce Mathieu genre de film.
Il faut aller le voir. Alors, c'est vrai qu'aussi, il faut le prendre pour ce qu'il est, hein. C'est-à-dire un bon moment de divertissement. Ça dure 1h17, rien de plus. À ce moment, on aime bien donner des sens, parfois sociétaux, films, alors chacun y trouvera son message derrière, mais là c'est pas une grande réflexion sur la société, en tout cas Quentin Dupieux il veut pas le présenter comme ça, il dit que c'est avant tout un grand délire.
Moi, je me sens complètement sain et pas du tout, j'aimerais pas faire du mal à qui que ce soit. Après c'est un film, c'est-à-dire que on aime toujours relier ça à la vraie vie, mais il faut pas oublier que c'est un film, c'est-à-dire qu'on peut parler d'un mec qui chavire et qui se met effectivement à zigouiller des mecs avec une palle de ventilateur, mais c'est rigolo, enfin voilà, ça peut être divertissant. C'est l'avantage du cinéma.
Voilà, donc je vous le dis, je le dis à nos auditeurs, il faut d'abord aller voir la bande-annonce, parce que Quentin Dupieux, c'est un univers particulier, que moi j'adore, mais il faut savoir ce qu'on va voir. Si vous y retrouvez votre compte, foncez voir le film, vous allez passer 1h15 formidable.
Philippe Catherine, il y a un mot qui ne vous a peut-être pas plu dans ce qu'a dit notre ami, le délire. J'ai lu une interview de vous dans Le Point, vous dites, si on me propose un délire, je gifle, moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le délire, vous l'avez en vous, c'est ça? Ça ne se crée pas, ça ne
oui,
se...
Délire, bon non, c'est pas... C'est-à-dire que si on ne peut pas attribuer ça, mais après, par exemple au film de Yves, je pense que de Benoît Forgeat. On parlait de Quentin Dupieux, mais ils ont un point commun, ces deux-là, c'est que ce sont, pour moi, deux génies.
Qu'est-ce que vous appelez un génie?
C'est-à-dire des gens qui seront là à 60 ans, qui sont en train de redéfinir les lignes du cinéma actuel.
Et puis des gens
actuel.
qui captent
ce qu'est aujourd'hui la société. Donc, donc le génie, c'est aussi de l'extralucidité. Donc dans l'extralucidité, ce qui peut être un délire, mais on n'est pas du tout dans la folie. D'autant plus chez Benoît Forgeat, je trouve.
Oui, parce que Yves est encore plus ancré. Oui,
c'est une réalité, mais qui est saturée, hein, si on veut. Donc.
Mais c'est presque du Philippe Catherine, en fait, ce que vous venez de dire.
Bon, écoutez...
Allez, on est à la radio, mais il a rougi. Allez, on marque une courte pause, vous l'avez compris. On est avec Philippe Catherine pour parler de la sortie de Yves. A tout de suite.
À 19h40, on retrouve François Claus pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1.
La page culture d'Europe 1, vous l'avez compris, nous sommes avec Philippe Catherine aujourd'hui, qui interprète un producteur et un copain d'ailleurs du rappeur William Lebgill, qui joue dans le film Yves. On peut citer également les deux actrices qui sont excellentes, Doria Tillier et Alka Balbir, dans ce film signé Benoît Forgeat, vous l'avez compris, le héros, c'est un frigo, mais un frigo intelligent et qui va créer des situations à la fois cocasses et également de réflexion. Ces rôles, Philippe Catherine, on a l'impression qu'ils sont dessinés pour vous. Comment vous allez les puiser, les chercher? Qu'est-ce qui vous fait choisir?
Bon, ben Benoît Forgeat, il n'y avait pas photo.
J'avais
tourné dans Gaz de France, j'étais président de la République.
Oui, on s'en souvient.
Quel souvenir pour moi. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Après, c'est, je choisis, disons... des choses qui me surprennent, que je n'ai jamais fait, surtout. Hein, je travaille avec un manager régulièrement, qui s'appelle Alain Gack, mais je ne me suis jamais mis dans sa peau de manager. C'était l'occasion pour moi. Ce sont des expériences comme ça, de sortir de soi-même, qui m'attirent le plus.
Qui vous attire, et c'est ce rapport au personnage que vous entretenez, qui fait peut-être de vous un personnage singulier dans notre environnement, qui nous accompagne depuis maintenant un quart de siècle. Vous vous souvenez sûrement, au mois de février dernier, vous rendiez hommage à un certain Titi.
J'envoie ce César à Thierry. Alors Thierry, c'est le personnage que j'ai eu l'honneur d'incarner dans le film. Thierry, peut-être tu dois nous regarder à la télé, dans ton appartement attenant à la piscine municipale. Et ça me fait bien plaisir. Salut Thierry. Et écoute, c'est pour toi, parce que toi qui aimes les sucreries, qui aimes Julien Clerc, n'y voyez pas d'analogie, toi qui as un relatif succès avec les femmes, toi Thierry, qui quand tu parles, on ne t'écoute pas, toi Thierry, on se moque souvent de toi un peu facilement. Bah, je me suis reconnu en toi et j'espère que tu t'es un peu reconnu en moi.
Voilà, c'était évidemment la nuit des Césars avec ce formidable moment. Vous aviez préparé ce texte, vous venez de recevoir le César du meilleur acteur dans un second rôle. Vous étiez au milieu d'une galaxie, une pléiade de tout ce qui se fait de mieux quasiment dans le cinéma d'acteurs français. Vous êtes là sur scène, vous aviez préparé ce texte ou vous vous êtes dit « bon, je me lance ».
J'étais sur un moto-taxi, c'est la première fois que j'en prenais de ma vie en plus pour aller à cette cérémonie. J'étais déjà très ému par la situation. Je serrais cet homme inconnu.
Ça, je sens que ça va faire un titre bientôt. Hein.
Sur il serrait dans mes bras, ses hanches généreuses, je m'en souviens. Et j'ai pensé sur
donc la soirée partait bien, sur de bonnes bases.
En toute sécurité, et puis j'ai pensé directement à Thierry dans Le Grand Bain, parce que, évidemment, je ne pense pas qu'il y ait d'acteurs, il y a surtout des personnages. Moi, c'est ma théorie. Après, on se glisse dans un personnage, mais acteurs, ça reste tout à fait secondaire. Imaginons, par exemple, dans le film du Grand Bain, que j'aurais joué le rôle de Canet, hein, Guillaume Canet, qui est un rôle d'homme presque antipathique, enfin le rôle, j'aurais joué ce rôle, sûrement je l'aurais mal fait, mais enfin, certainement que j'aurais pas eu le César, parce que Thierry, c'est pour ça que je lui rendais hommage, disons qu'il provoque une sympathie immédiate, voilà.
Enfin là, vous jouez les armes, parce que
non, c'est ce que j'ai lu dans le scénario.
Non,
aussi.
Mais Thierry, vous lui donnez aussi une âme, et c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, Thierry, c'est cet homme qu'on a déjà croisé nous aussi dans des piscines ou dans plein de lieux qu'on regarde à peine et que vous campez merveilleusement bien, et qui fait que
parce que je suis Thierry aussi.
C'est votre personnage, en fait.
J'ai trouvé Thierry en moi assez facilement, d'ailleurs.
Vous êtes romantique.
Ah oui, allons-y pour dire ça.
Ouais. Écoutez, Diane Filouda va nous faire un petit voyage vers le romantisme. Diane, vous nous emmenez au Petit Palais.
Oui, absolument. Je vais vous faire voyager dans le Paris romantique des années 1815-1848 avec cette reconstitution spectaculaire, il faut bien le dire, que propose actuellement le Petit Palais à Paris. C'est en effet très impressionnant. Comme mise en scène avec pas moins de 600 objets d'art, mobilier, peinture, dessin également. Vous qui aimez le dessin, qui dessinez et j'en passe. Et
c'est vous l'avez vu l'exposition d'ailleurs, Philippe Catherine ?
Celle-ci non.
Non, vous allez, envie d'y aller.
Oui, je pense que oui, absolument. C'est donc le Paris d'avant Haussmann. On se promène comme si on y était dans les hauts lieux de ce Paris romantique qui a suivi la chute de Napoléon. Alors ça commence le matin avec le palais des Tuileries, ses appartements royaux, jusqu'au soir sur le boulevard du crime avec tous ses théâtres. En passant par la vie de Bohème dans le quartier latin et bien sûr le palais royal, lieu de passage bouillonnant dans ce Paris-là, comme nous le confirme Christophe Leribaud, directeur du Petit Palais.
Après les appartements des Tuileries, on débouche au palais royal, qui est un endroit qui subsiste toujours, mais qui est plutôt un havre de calme, hein, et ce jardin entouré de colonnes. Mais à l'époque, il faut imaginer une grande galerie commerçante, une partie était couverte de voûtes métalliques, et c'est là qu'il y avait toutes les boutiques de mode, d'objets raffinés, il y avait aussi les grands restaurants, les maisons de jeux, même un peu de prostitution. C'était vraiment un haut lieu de l'époque où les modes se faisaient et se désaient.
Et alors ce qui est fabuleux, ce palais royal de l'époque est reconstitué là, au Petit Palais, avec toutes ces vitrines remplies de porcelaine de Paris, cristal, bijoux, chapeaux, éventail. Il y a ses robes et ses vêtements de dandy. Il y a par exemple les bretelles de Balzac et sa canne. Balzac, comme d'autres, était très dépensier dans ce Paris effervescent.
C'est vraiment une période entre 1815 et 1848, à la chute de Napoléon, où cette capitale vaincue aurait pu être assez morne. Il y a une explosion de créativité grâce à tous les artistes, aussi bien les génies locaux, c'est Victor Hugo, Berlioz ou Delacroix, mais aussi la convergence d'énormément de créateurs étrangers, ça peut être Rossini ou Chopin, mais aussi beaucoup de clients, de collectionneurs, de gens qui veulent goûter une certaine liberté de vie et de création à Paris.
Et cette liberté, c'est celle aussi des artistes,
oui,
c'est ça qui ressort.
Avec Delacroix en effet, Ingres, Géricault et d'autres qui exposent au Louvre une fois par an, c'est un peu la fiac des temps romantiques. Alors, on a là justement exposé une centaine de peintures et sculptures de ces grands noms dans la même salle. Et puis, on fait un saut ensuite à Notre-Dame, évidemment, sur l'île de la Cité.
L'île de la Cité, cœur de la ville, est remis à la mode, évidemment, par le grand roman de Victor Hugo, qui a certes une héroïne, Esmeralda, dont on a plusieurs représentations par des peintres de l'époque, mais surtout qui prend comme sujet un grand monument, un petit peu délaissé des Parisiens, et le remet véritablement dans leur cœur. C'est ce qui va générer le grand projet de restauration du bâtiment et aboutir, grâce à Viollet-le-Duc, à la reconstitution de cette flèche extraordinaire qui est presque le chef-d'œuvre de l'architecture romantique.
Puis on arrive place de la Bastille, la colonne de Juillet, le fameux génie de la Bastille, dont on a ici un très beau plâtre et qui célèbre la révolution de 1830. C'est aussi l'année 1830 de la création symphonique de Berlioz, dont on peut écouter des extraits. Alors vous avez même le manuscrit de cette partition de Berlioz, et également le manuscrit original, ça c'est quand même très impressionnant, de l'éducation sentimentale de Flaubert. Et cerise sur le gâteau, on a des concerts aussi de temps en temps sur un piano de l'époque. Écoutez, c'est très beau, c'est évidemment, c'est Chopin.
Merci Diane de nous avoir fait ce voyage au son des mazurkas de Chopin. Vous avez envie d'aller la voir, l'exposition La Fille
ah, Catherine,
on l'a choisi pour vous.
Je ne pense plus qu'à ça depuis deux minutes.
Vous dites souvent, j'aurais aimé vivre dans les années 1860 ou dans les années 2060. Vous dites, je ne suis pas forcément de mon époque, et pourtant vous incarnez d'une certaine manière notre époque. Comment vous faites pour être aussi décalé et autant dans notre époque?
Oh bah, je ne me pose pas la question.
Vous êtes comme vous êtes?
Oui, c'est ça. Je suis né en 68. J'ai traversé tout ça sans me poser la question. Mais c'est vrai
mais
que...
Mais vous adorez observer votre époque. Vous dites souvent, j'aime bien manger tout seul au restaurant, regarder les gens. Vous
êtes un... J'adore observer les gens. J'en ai fait même une chanson, regarder danser les gens.
Mais Ah bon, vous êtes sûr?
Oh là.
J'adore.
Ah, il est fort.
Regardez danser les gens.
Alors vous adorez les regarder danser, vous adorez les observer, vous adorez les dessiner, les peindre.
Oui, oui. C'est drôle de regarder les gens, par exemple, circuler et de les imaginer justement dans le Paris d'avant Haussmann. Au fond, rien ne change, les visages auraient été les mêmes. Seulement, c'est tout le décorum autour, la coiffure, les vêtements. Et
oui, c'est vrai, mais finalement, il y a le même bouillonnement.
Mais sinon, on reconnaît, on imagine que les mêmes gestes étaient là déjà dans le Paris d'avant Haussmann ou bien avant. Enfin, ce sont les mêmes gestes. Bon, sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coups de pliés quand on dans les rues.
Oui,
l'articulation du coude droit est très sollicitée.
Et c'est
en
pas
ce
à
moment.
Cause du verre qu'on boit au bar du luxe.
C'est pas à cause du jaja.
C'est plutôt à cause du robot. Vous l'avez compris, c'est notre page culture. Nous sommes avec Philippe Catherine qui est à l'affiche de ce beau film Yves qui sort. Et ben, au foot, il y a deux mi-temps. Ici, il y en aura trois. On retrouve Philippe Catherine dans un instant. La page culture, et nous sommes avec Philippe Catherine à l'affiche du film de Benoît Forgeard, Yves, où il partage l'affiche avec William Lebguil, Doria Tillier et Alka Balbir. Un film, une comédie folle, sympathique et qui nous renvoie à une image de notre époque qu'on évoquait à l'instant avec Philippe Catherine, notre invité aujourd'hui. Vous revendiquez vos origines, vos attaches, vous les avez même chantées au moment où cette équipe de foot improbable s'est retrouvée à la une de l'actualité.
Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers que ni l'or ni l'argent n'ont caressé. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous ces peuples.
Moment inoubliable que cette équipe des Herbiers qui se retrouve face au grand PSG Qatari en finale de la Coupe de France 2018. Philippe Catherine, c'est les Herbiers, c'est chez vous.
Oui, c'était il y a un an,
un
peu plus. Mais c'est le bocage vendéen où j'ai grandi dans ce paysage, très maternel, parce qu'on s'y sent comme dans le ventre d'une maman, souvenez-vous.
Oui, je vais essayer.
Donc je vois que...
Que ça me parle.
Oui.
Vous dites très souvent, tous mes grands arrière-grands-parents étaient tous des chouans, ils ont tous mené des guerres.
Surtout, c'est cité dans cette chanson qu'on vient d'entendre, qui était pour encourager le club Et donc je cite effectivement le peuple massacré. Bon, surtout c'était pour impressionner l'adversaire, hein. le côté sanguinolent, bien sûr. Et ça a marché parce qu'on est allé en finale. C'était contre Chambly, ça. C'était une chanson pour la demi-finale.
Ouais, vous avez battu Francis Lalanne qui était de Chambly.
Par la même occasion.
Alors on aurait pu vous évoquer avec Vanessa qui nous fait voyager tous les week-ends comment aller manger des bons haricots blancs. Comment on appelle les bons haricots blancs de Vendée?
Les mogettes,
qui sont une spécialité. Aller faire une balade peut-être sur des canaux, aller à Noirmoutier, Vanessa a une autre idée, elle va vous transporter vers une autre région qui vous est chère, Vanessa.
Elle vous est chère, c'est le festival d'Avignon. Je sais que vous avez un lien particulier avec Avignon, vous y êtes retournée l'année dernière. Oui. Alors c'était pas sanguinolent, on a chanté l'amour, vous avez chanté l'amour, on va vous réécouter, c'était dans la cour du Palais des Papes.
Notre amour est chose légère, comme les parfums que le vent prend aussi.
Alors cette année au Festival d'Avignon, ce sera le thème du voyage au sens propre comme au sens figuré qui va emporter tous les festivaliers. Et en marge du festival, Avignon a d'autres voyages à vous proposer. Et il y en a un qui va vous plaire, je pense, Philippe Catherine. C'est un artiste engagé qui va nous faire explorer le monde à travers 400 œuvres. Elles vont être exposées dès le week-end prochain dans la chapelle du Palais des Papes. Il s'appelle Ernest Pignon. Ernest, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je suis sûre, en fait, en voyant ces images, que ça va vous dire quelque chose. En fait, c'est le pape du street art. Ça fait 60 ans qu'il dessine au fusain des grands formats sur les murs des plus grandes villes du monde. En gros, c'est un peu le papa de JR, le photographe,
ah oui,
en
très,
quelque
très
sorte.
Connu, hein.
Mais il est très,
il
très
est connu.
Donc voilà, ouais. Donc peut-être qu'un jour, vous aussi, vous dessinerez comme ça sur des grands murs. Ça vous tenterait?
Ben pourquoi pas, l'espace, c'est toujours bon à prendre un peu d'espace.
Les murs d'Avignon, Vanessa, qui réservent toujours d'ailleurs de belles surprises.
Ben oui, avec les trompe-l'œil, il y en a une cinquantaine. Hein. Chacun représente un artiste qui a fait briller le Festival d'Avignon, des Gérard Philippe, des Michel Bouquet. Donc c'est un jeu de piste qu'on vous invite à faire un voyage dans la mémoire du Festival d'Avignon, qui, on le rappelle, date quand même de 1947, un des plus vieux festivals.
Et les rues d'Avignon, on peut les quitter pour aller dans cette magnifique région. Il y a un pic qui se dégage tout au fond.
On y va forcément. On va faire l'ascension du Mont Ventoux. Et la nouveauté cette année, c'est que 12 parcours VTT tout niveau ont été aménagés et balisés au milieu de la nature. Au départ, de Bedouin, ça vous parle, Sault, Beaumont, du Ventoux. Pour les moins endurants, il y a une belle flotte de VTT électrique. Donc moi, évidemment, je l'ai testé. Philippe, Catherine, vous êtes VTTiste ou vous êtes plutôt vélo électrique?
Non, je vais vous dire ce qu'il est. Ah, attends, alors, je vais vous dire, avant qu'il réponde.
Si je
peux il est fort.
vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit sous ecstasy. La nuit à Paris.
Voilà, d'abord, quand on vous a dit que c'était un romantique, hein, vous avez compris.
On y est.
Donc, voilà, c'est la réponse.
C'est vrai,
non,
ouais. C'est vrai, c'est un romantique.
Merci.
Un Vélib pour aller au Mont Ventoux. Et on finit. Comme vous êtes romantique, je vous ai trouvé un endroit caché. C'est le rooftop caché du Mont Ventoux. Et ça s'appelle l'hôtel Crillon-le-Brave. En fait, il a un charme dingue. Pourquoi? Parce que l'hôtel, c'est un village. On a gardé toutes les maisons du village et on a installé des chambres dans chacune de ces maisons. Et chacune porte le nom de l'ancien propriétaire. Donc, vous allez pouvoir dormir chez le curé, chez l'avocat, chez le peintre. Et il y a en plus toujours le boulodrome pour des bonnes petites parties de pétanque. Et on en prend plein la vue parce qu'on embrasse à 180 degrés le Mont Ventoux et toute la vallée. Et c'est très inspirant. Et là-bas, je suis sûre que vous aurez envie de dessiner.
Oui, et peut-être de boire un bon vin du Ventoux parce qu'ils sont pas mal les vins du Mont Ventoux, non?
On peut faire un petit tour chez Patrick Chêne. Vous savez qu'il a ouvert son domaine, son vignoble, le domaine de Dambrun. Allez-y.
Ce qui est formidable avec vous, Philippe Catherine, c'est qu'il y a eu Louxor, il y a eu le Grand Bain, et vous restez, vous réussissez à résister, ou ça vous a embêté ce succès? Parce qu'on vous imagine voulant rester discret, voulant... Là, tout le monde vous reconnaît maintenant, vous êtes star.
Non, je prends le métro. Hein.
Ouais.
Mais vous prenez
sans
pas
aucun
Vélib.
Problème. C'est pas moi qui conduis le métro. C'est pas un problème parce que les gens sont quand même très affectueux. Bon, des fois, c'est pas toujours le cas. Mais là, quand même, la plupart du temps, c'est quand même des grands sourires qui sont adressés. Et c'est vrai, quand t'as le moral en berne, ça fait du bien quelqu'un qui te voit, qui te dit et qui te sourit comme ça jusqu'aux deux oreilles. Tu te dis, j'ai bien fait de me lever ce matin.
C'est le mot de la fin. Et nous, on a bien fait de vous inviter ce soir. Merci pour ce bon moment passé avec vous, Philippe Catherine.
Ben, merci à vous.
Et
merci.
Puis surtout, donc, allez voir à partir de mercredi Yves, ça va beaucoup vous amuser. Il y a longtemps que je n'avais pas ri. La scène de l'Eurovision, je l'ai encore en tête, du concours de l'Eurovision au cinéma. Et ben, vous y verrez un excellent Philippe Catherine, le film de Benoît Forgeard. Merci à Diane Chélouda, merci à Vanessa Zah et merci à Mathieu Charrier. À bientôt, Philippe Catherine.
Merci,
pour
toujours
une prochaine aventure.
Bien sûr, je suis là.
Vous serez toujours accueillis.